Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité? Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité? C'est Emmanuel Macron qui pose ces questions dans sa lettre aux Français. La fiscalité est l'un des quatre grands thèmes du grand débat national lancé par le chef de l'État. Dans un pays réputé pour sa fiscalité complexe, attachée à la redistribution et où l'un des principaux motifs de colère avérés ces dernières semaines, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune. Cette simple façon de poser les questions sans évoquer les possibilités inverses peut surprendre, voire même choquer. Faut-il baisser les impôts et supprimer des services publics? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Clément Carbonnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en économie à l'université de Cergy-Pontoise, chercheur au laboratoire TEMA, co-directeur de l'axe politique socio-fiscale du LIEPS, c'est le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Et Alexis Spire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur de « Résistance à l'impôt, attachement à l'État », c'est au Seuil en 2018, et de « Faibles et puissants face à l'impôt » aux éditions « Raison d'agir » en 2012. Est-ce qu'on peut poser des questions sur un sujet aussi complexe dans une consultation aussi large? D'habitude, on dit que l'impôt, bah, ça relève de la représentation. C'est la prérogative du Parlement, Alexis Spire?
Oui, mais moi je crois que c'est le côté un peu sain de la crise actuelle, c'est que tout d'un coup l'impôt devient un sujet de débat public, et comme c'est un sujet éminemment civique, il faut se réjouir du fait que tout d'un coup on puisse mettre au centre du débat public la question des inégalités fiscales, la question des inégalités sociales et la question aussi de la société qu'on veut construire. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite que le débat soit normé par l'exécutif, on peut trouver à y redire, mais que les citoyens et que les contribuables se réapproprie cette question apparemment technique, mais en fait éminemment politique, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Alors Clément Carbonnier, c'est une question effectivement éminemment politique, mais le fonctionnement de l'impôt en France, il est pour le coup éminemment technique, c'est pas simple, hein.
Non, il est complexe. En même temps, c'est pas parce qu'il est complexe que on peut pas en débattre. Plus la question par rapport à la manière dont est posé le débat, c'est que le lien qui est fait pour baisser certains impôts, il va falloir choisir les dépenses publiques à baisser. C'est ce lien-là qui réduit fortement le débat. C'est-à-dire que le débat, il pourrait être plus ouvert. Parce que déjà la variation des finances publiques, enfin des impôts, est pas forcément directement liée à la variation des dépenses publiques. Un certain nombre d'économistes, pourtant assez classiques, ont remis sur le devant de la scène la possibilité d'augmenter les endettements, surtout dans une considération où la France est empreinte à taux négatif quand même. Mmh. Et puis ensuite, la question, justement, c'est pas juste pour baisser les impôts. Quelles dépenses supprimer, mais ça peut être aussi justement une discussion plus générale sur les impôts, lesquels baisser, lesquels augmenter.
Alexis Spire, quel est actuellement en France le niveau de consentement à l'impôt? En préparant cette émission, je me suis aperçu que selon certaines études, eh bien, c'était de plus en plus bas chaque année. Les gens ont un peu de réticence à payer leurs impôts.
Non, alors et ça dépend ce qu'on entend par consentement à l'impôt. Moi, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que ça renvoie à deux significations en fait très différentes. Hein. C'est si on parle du fait de payer ses impôts, du civisme fiscal, on est aujourd'hui encore en France à des taux quand même très très élevés. Si on prend l'impôt sur le revenu, on est encore à 98% de gens qui remplissent leurs obligations, qui remplissent une déclaration. Donc ça, de ce point de vue-là, y compris après la crise des gilets jaunes, il n'y a pas tellement de changements. En revanche, sur la question de l'acceptation politique de l'impôt et de ce qu'il représente et de la façon dont il est utilisé. Là, pour le coup, on a ce que j'essaye de montrer dans mon livre à partir d'un échantillon représentatif de la population française, on a des perceptions de l'impôt qui sont très inquiétantes parce que il y a un sentiment très, très largement répandu de l'idée que, il y a trop d'impôts, trop de taxes en général en France, que individuellement on paye trop d'impôts, trop de taxes, et surtout un très fort sentiment d'injustice fiscale. Alors il faut essayer de comprendre justement et c'est ce que j'ai essayé de faire en fait en faisant des enquêtes un peu approfondies, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce sentiment, et surtout de bien avoir en tête qu'il faut rompre avec cette catégorie du contribuable générique et interchangeable, et voir en fonction des lieux géographiques d'habitation, en fonction des positions perception sociale, en fonction des statuts économiques, évidemment des perceptions de l'impôt qui sont très variables.
Clément Carbonnier, on parle donc de sentiment d'injustice fiscale. Est-ce que tout le monde paye des impôts en France, que ce soit des impôts directs, indirects, sur le revenu, des taxes sur la consommation? Tout le monde paye des impôts?
Oui.
Voilà.
Oui, tout le monde en paye. Effectivement, on paye... Après, il y a peut-être qui arrivent, mais ça va être très compliqué. Non, tout le monde en paye, et tout le monde en paye relativement, enfin, des montants relativement importants, y compris d'une certaine manière, même sur le revenu. C'est-à-dire que sur le revenu, on pense à l'impôt sur le revenu lui-même, mais la majeure partie des prélèvements obligatoires sur le revenu, ils sont pas par l'impôt sur le revenu, ils sont par la CSG, ils sont par d'autres modes qu'on paye dès le premier euro gagné.
Est-ce que faire payer les riches, c'est ce qu'on entend parfois, et notamment dans les manifestations des Gilets jaunes, avec le thème de l'impôt de solidarité sur la fortune, est-ce que ça suffirait à rééquilibrer un système, et notamment les comptes publics?
Ça dépend. Faire payer les riches, ça dépend combien on les fait payer. Mmh. Donc là, la réponse est, à la rigueur, c'est dans le sens inverse. C'est pour financer telle dépense, combien il faudrait les faire payer en plus. Ouais. Après, il y a effectivement. Moi, ce que j'ai étudié particulièrement, c'est un certain nombre de niches fiscales, donc de réduction d'impôts. Le point qui est important au départ pour les appréhender, c'est qu'elles sont jamais présentées. Elles pourraient l'être. Elles sont jamais présentées comme des mesures pour rééquilibrer l'impôt. Dire il y a certains ménages qui en payent trop et je voudrais, ou certaines entreprises qui en payent trop, je voudrais diminuer leur imposition. C'est jamais présenté comme ça. C'est présenté sous une versant d'efficacité, c'est-à-dire on va réduire l'imposition. Alors pour le CICE des entreprises, et comme ça elles vont embaucher, innover. On va réduire l'imposition des ménages qui emploient à domicile, et comme ça ils vont employer plus à domicile. Et en fait nous ce qu'on observe, enfin moi ce que j'ai observé dans ces deux cas particulièrement, c'est que l'effet incitatif en fait n'a pas été réalisé, c'est-à-dire que
ça crée pas plus d'emplois, c'est ça.
Donc le CICE n'a pas créé plus d'emplois, n'a pas permis d'augmenter la position à l'export des entreprises françaises, et de l'autre côté le montant initial de la création initiale du crédit d'impôt a blanchi un peu des emplois, mais par contre les relèvements de plafonds successifs, hein, l'extension de la politique n'a pas créé de nouveaux emplois, n'a pas blanchi de nouveaux emplois. Et du coup, il n'y a pas la caractéristique d'efficacité. Et finalement, le seul impact principal de ces mesures, ça a été un impact redistributif. Et ça a été un impact redistributif qui, pour le crédit d'impôt sur les services à la personne, redistribue très très fortement vers les catégories les plus aisées de la population.
Celles qui emploient des gens à domicile, voilà, tout simplement.
Celles qui emploient des gens à domicile, donc qui sont les plus aisées. Et pour le CICE, il y a une part qui passe, alors, dans les profits, et donc là, on ne va pas assez loin pour savoir qui en bénéficie, mais enfin, les détentions des entreprises par rapport aux revenus est quand même plutôt aussi en haut. Et on a eu aussi une augmentation des salaires des catégories socioprofessionnelles les plus qualifiées. Voilà comment a été redistribué les points.
Alexis Spire, vous parliez, c'est vous qui évoquiez le sentiment d'injustice fiscale. Ce serait quoi, selon les études que vous, en tant que sociologue, vous avez menées, ce serait quoi un système fiscal juste pour les gens que vous avez interrogés?
Alors c'est compliqué parce que un enseignement important, c'est que le système fiscal il est assez mal connu, et quand on interroge les gens sur les questions de justice fiscale, la première réaction qu'ils peuvent avoir, c'est souvent qu'ils le connaissent mal, qu'ils savent pas très, enfin justement il est quand même très opaque,
c'est
très technique.
C'est assez touffu, hein,
c'est assez touffu, y compris quand on le leur de, enfin voilà, ils savent à peu près ce que eux payent,
ce qui les concerne directement,
mais ils ont quand même beaucoup de mal à avoir, disons, une vision globale. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça c'est vrai pour la France, mais c'est attesté aussi par beaucoup d'enquêtes internationales, c'est que les prélèvements qui sont progressifs, c'est-à-dire dont le taux augmente avec le niveau de richesse ou avec le niveau de patrimoine, sont considérés comme plus justes par les contribuables que les impôts proportionnels, c'est-à-dire dont le taux est fixe quel que soit le niveau de richesse. Ça c'est quand même quelque chose de très important, parce que
c'est le cas de l'impôt sur le revenu, hein, voilà.
Voilà, mais il faut avoir en tête que notre système fiscal, il est quand même de moins en moins progressif, c'est-à-dire que l'impôt sur le revenu, il a un nombre de tranches qui s'est réduit de plus en plus, il a beaucoup de niches fiscales, et puis on avait un autre gros impôt progressif qui était l'impôt sur la fortune, et que justement on a quasi supprimé, ou en tout cas remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. Donc voilà, donc en tout cas pour les gens qu'on interroge, encore une fois, il y a un fort consensus sur un niveau, enfin l'équivalence entre un impôt juste et un impôt progressif. Sauf pour un, et on pourra y revenir si ça vous intéresse, c'est l'impôt sur les successions qui a un statut, qui est un impôt progressif et qui a un statut très à part pour beaucoup de contribuables. Il faudrait pouvoir l'expliquer.
Clément Carbonnier, est-ce que vous constatez, vous, année après année, en étudiant le système fiscal, que l'impôt est de moins en moins progressif?
Je vais essayer de pas trop bafouiller. Il y a des choses qui vont dans un sens et dans l'autre. Alors, et ça dépend comment on les compte. Et c'est encore ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'impôt, par exemple, si on prend le CICE, on peut avoir un impact direct, on va dire, c'est les entreprises qui ont touché. Puis ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ça a permis d'augmenter les salaires des plus qualifiés. Et donc l'impact finalement, l'impact réel sur les inégalités du CICE est pas forcément exactement le même que celui qu'on aurait pu penser au départ. Et donc par exemple quand on regarde en général l'évolution sur les 10-15 dernières années, on a effectivement une baisse de la progressivité de certains impôts et on a en même temps une hausse de la progressivité de certains autres prélèvements obligatoires, notamment les cotisations sociales patronales, pour lesquelles il y a énormément de réductions. Maintenant, toute la question, c'est de savoir, est-ce que ça, c'est progressif, c'est redistributif? C'est-à-dire qu'effectivement, quand on baisse les cotisations patronales sur les bas salaires, c'est les bas salaires qui en bénéficient, ou c'est les employeurs qui en bénéficient. Et donc, effectivement, selon qu'on pense que c'est l'un ou c'est l'autre, l'image, l'évolution de la progressivité globale de notre système va être très différente. Donc c'est pour ça que la question, c'est dur d'y répondre. Si on considère que les cotisations employeurs sont payées strictement par les employeurs et que donc les allègements ont bénéficié uniquement aux employeurs, alors oui, la progressivité a baissé.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, et là je reviens au cœur de votre livre, Alexis Spire, à demander aux gens quels services publics supprimer ben quand ils en voient disparaître beaucoup, surtout dans le monde rural, le bureau de poste qui ferme, le tribunal d'instance qui ferme, l'école qui ferme. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là?
Il y a un premier paradoxe qu'on peut soulever en guise de clin d'œil, c'est surtout quand on s'est fait élire comme le président du « en même temps ». Et le « en même temps », on a envie de dire, est-ce qu'on pourrait pas l'appliquer au fait de vouloir à la fois baisser les impôts et en même temps plus de services publics? Pour le coup, c'est quelque chose qui est très ancré. Alors, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire, c'est pas que la disparition des services publics. Il faut être un peu plus précis que ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on assiste
de certaines zones géographiques en fait.
Je parlerais plutôt de repli dans le sens où on a de plus en plus des services publics qui se dématérialisent avec des relais, des agents, enfin des suppressions de postes, notamment. Alors je pense justement dans l'administration des finances publiques, hein, où on a de plus en plus d'échanges dématérialisés. Donc ça veut dire de moins en moins de personnes au guichet. On a plus de 20 000 emplois qui ont été supprimés les 12 dernières années dans l'administration des finances publiques. Donc ça, tout ça, ça pèse. C'est pas la disparition de l'administration des finances publiques, mais c'est simplement le fait que c'est de plus en plus difficile de trouver un interlocuteur, de trouver quelqu'un derrière le guichet. Et ça, encore une fois, c'est pas neutre socialement. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus besoin d'exposer leur cas, d'avoir un interlocuteur, d'être accompagnés dans leur démarche, ce sont les classes populaires, une partie des classes moyennes. Et ce sont ces groupes sociaux qui ont le plus, disons, pâti de ces transformations du service public et de ce repli du service public en termes de moyens humains.
Est-ce que c'est une réalité sur la dépense publique, le retrait du service public, selon vous, Clément Carbonnier?
Alors, le retrait, ça dépend, si on le regarde encore une fois en chiffres, en montant, il n'y a pas forcément de diminution. Après, il y a plusieurs questions. C'est que on peut avoir des montants qui ne baissent pas, mais qui n'augmentent pas par rapport à des besoins qui augmentent. Si on regarde la santé, par exemple, on a des progrès technologiques qui font que la santé est de plus en plus chère, qu'on est capable de soigner plus de choses. Et donc, si on continue à dépenser la même chose, de fait, on soignera moins, ou plutôt on utilisera une plus faible. On aura une part plus faible de nos capacités de soigner qu'on utilisera réellement. Ou alors, ce qui est une autre possibilité, on aura une inégalité devant le soin en transférant une part du remboursement sur des mutuelles. Alors officiellement, la sécurité sociale par exemple rembourse toujours 70%, mais de plus en plus on a des petits dépassements qui se multiplient, qui sont donc à la charge d'un système privé d'assurance. Et donc de ce point de vue-là, on peut effectivement, par rapport à des besoins de santé qui augmente parce que la technologie de santé s'améliore et une prise en charge, même si officiellement c'est toujours 70% du tarif sécu, en fait c'est de moins en moins du tarif réel payé, on pourrait avoir une vraie sensation de repli du service public dans ce domaine-là.
Quels services publics peuvent se sentir visés ? Qu'est-ce que les gens que vous avez pu rencontrer, Alexis Spire, craignent comme disparition de services ? Il y a des choses qui sont nommément désignées.
Non, mais encore une fois, ça dépend où est-ce que vous allez faire des entretiens. Moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'entretiens dans le Finistère, en fait, dans des secteurs qui sont assez éloignés. Alors, à la fois éloignés de Paris, mais aussi éloignés des grandes villes et de la grande ville qui est Brest. Il y a un sentiment d'injustice, c'est-à-dire le sentiment de payer autant que les autres et de pas avoir la qualité du service public qu'on peut avoir en matière de transport, en matière d'accès aux guichets, etc. Et donc ça c'est encore une fois, c'est ce qu'on voit aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est encore une fois, sa répartition géographique est un révélateur des fractures de la société française et des inégalités en termes d'accès aux services sur le territoire. Mais ensuite, ce que dit Clément Carbonnier est très important parce que une bonne part quand même des prélèvements obligatoires et des impôts, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le modèle social. Et c'est là, en fait, à mon avis aussi tout le cœur de la contradiction, c'est que ce qui apparaît dans les entretiens, c'est que les Français, les contribuables, sont extrêmement attachés à ce modèle social. C'est ce qui place bien souvent
ça fait partie de l'identité française, quoi.
Oui, c'est ce qui place, c'est une constante. J'ai comparé deux enquêtes, c'est une de 75 et la mienne de 2017. La dépense qui place en premier comme dépense indispensable, etc., c'est le fait d'être protégé, c'est ce modèle de protection sociale avec ce qu'il inclut, c'est-à-dire la retraite, l'accès aux soins, l'accès à l'hôpital public, etc. Et donc ça, c'est très attaché et c'est ce qui, entre guillemets, coûte le plus cher, ou en tout cas, c'est ce qui représente
la plus grosse
part du taux de prélèvement obligatoire. Et donc, il faut
450
faut bien
milliards
avoir...
par an, quelque chose comme ça, hein, Clément Carbonnier.
Après, ça dépend qu'on englobe dedans, mais c'est la majeure partie, et la majeure partie des dépenses sociales, c'est la santé et la retraite. Et effectivement, ce que j'ai dit sur la santé, on peut avoir la même chose sur la retraite, parce qu'avec le fait que le vieillissement de la population, si on n'augmente pas d'une certaine manière le taux de prélèvement sur les actifs pour financer les retraites des retraités, les retraites des retraités vont baisser puisqu'il y a de plus en plus de retraités. Et donc là, à ce niveau-là, le sentiment des retraités d'avoir une retraite qui va baisser est probablement vrai, et en même temps, le sentiment d'augmentation des prélèvements obligatoires sur les actifs pour la financer est vrai aussi. Et...
Le système fiscal français est illisible, hein. Il y a des niches, des exemptions fiscales. Je ne sais pas combien de villes en France qui s'appellent Villefranche, ça veut dire en fait que depuis le Moyen-Âge, bien, elles ne payent pas d'impôts, c'est ça l'idée, c'est une tradition qui est pratiquement millénaire. Comment est-ce qu'on peut changer une tradition comme ça, Alexis Spire ?
Non, mais encore une fois, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de choses immuables, et le fait qu'aujourd'hui il y a un grand débat public autour de ces questions, je pense qu'il faut s'en réjouir. Et après, il faut être suffisamment clair sur justement les principes qui sont en jeu, et le fait que aujourd'hui il y a une très, moi je pense qu'il y a une très grande demande de justice fiscale, mais qui a du mal à prendre forme parce que on a encore un dispositif qui est très technique, qui est très touffu, et je pense qu'il faut vraiment en prendre la mesure parce que il y a une tentation du pouvoir, et on le voit bien, de transformer finalement la crise actuelle en apportant des réponses à la fois institutionnelles, politiques, etc. Mais il faut prendre la mesure de la très grand sentiment d'injustice fiscale et d'injustice sociale qui est à l'origine de cette crise, et qui, si on lui donne pas une réponse politique, risque de rebondir sous une autre forme très très vite, à mon avis.
Merci Alexis Spire, merci à vous également, Clément Carbonnier, c'est déjà terminé. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Hélène Avril. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.